Bonjour à tous. Je suis ravi de voir pas mal de monde. Qui était l'année dernière à la session sur le framework? D'accord. Bon, en fait, cette session est un peu dans la continuité de celle de l'année dernière. Donc, je me présente, je m'appelle Bruno Boucard, je suis Selenza et ma spécialité, c'est le développement parallèle.
Bonjour, je m'appelle Michel. Moi, je m'occupe plutôt de l'industrialisation. On ne sait pas ce qu'on fait sur cette session, mais on va voir ça avec vous tout de suite. Selenza, c'est un cabinet de conseil. On est assez jeune, mais on est quand même assez actif. Notre métier, c'est les technologies Microsoft et l'agile. On essaye de concilier les deux. On est aussi Gold Partner. Et on est là pour faire partager un peu nos expériences avec vous.
Alors, si on parle du framework, le framework, finalement, ça se résume, si on le voit une vue très simplifiée, à peu de choses. Un runtime, des librairies, des langages et du tooling. Tout ça, on l'appelle ça .NET. On appelle .NET cet ensemble depuis des années. Mais malgré tout, ça contient quand même beaucoup de choses. Et cet ensemble constitue énormément de services déclinés par thème, client device, web, cloud, fundamentals, etc. Les infos qui ont été remontées par Microsoft, c'est que le framework 4.5 est installé sur plus de 100 millions de machines. Donc ça fait quand même un beau déploiement. Donc pas mal de responsabilités dans l'évolution justement du framework. C'est évident que quand on est aussi installé, faire une évolution, ça doit être bien calculé. Et ça doit effectivement ne pas pénaliser et toujours apporter un peu plus de performance et de fonctionnalité. La présentation est définie en trois axes. La productivité du développeur, la performance des applications et l'innovation constante. Alors, productivité du développeur, je vais laisser Michel nous en parler.
Ce qui est important avec un framework, c'est de pouvoir travailler de façon efficace. Et donc là, il s'est passé un an entre deux versions du framework. Et Microsoft a essayé de combler certaines lacunes qui sont là depuis quelques mois, plutôt quelques années. Tout le monde a bossé sur Windows XP, on développait, on était en debug, on pouvait corriger en live, ça marchait. Et puis un jour, on vous a changé votre machine, vous êtes passé sur Windows 7. Ah super, j'ai une machine 64 bits, j'ai un peu plus de 2 Go de RAM, et voilà, sauf que ça ne marchait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le Edit and Continue ne marche pas avec les machines 64 bits. Alors, vous êtes quelques personnes à l'avoir remarqué. Et donc, Microsoft a décidé, cette fois-ci, dans cette version-là du framework, on peut faire de l'Edit and Continue sur tous les types d'applications sur des machines 64 bits. Donc, tous les types, ça sera du client web, donc des applications sous 2IS. Là, par contre, il faut l'activer dans 2IS pour lui dire que ce soit du WinForm, WPF et même des applications store. Donc maintenant, il y a plus de limitations et cette fenêtre-là va disparaître à jamais. Donc ça, c'était un truc, mais on a toujours eu le problème quand je développais. On avait des méthodes qui renvoyaient des valeurs et forcément, on aimerait bien savoir la valeur renvoyée. Sauf que on avait directement un return. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On fait comme tout le monde, on rajoute une variable juste avant le return. Alors, moi, je venais du Delphi, je l'appelais result. Et elle servait juste à ce moment-là pour voir le résultat de retour. Sauf qu'en fait, cette variable-là n'avait aucun intérêt puisqu'on pouvait directement envoyer la valeur. Mais on n'avait pas le choix parce que le debugger ne nous donnait pas cette information. Donc, maintenant, avec le framework 4.5.1, on a la possibilité, soit dans les fenêtres auto, soit dans l'immediate window, d'avoir directement la valeur de retour. Donc, ça nous aide énormément dans le débugage. On va continuer avec le débugage. Qui utilise la partie asynchrone du framework 4.5, async await? Un petit peu. Vous avez dû remarquer qu'en framework 4.5, quand on avait une stack et qu'on était en debug, c'était pas forcément très évident de savoir où on était. Parce qu'en fait, le compilateur, avec ces méthodes-là, il refactorise un petit peu notre code. Et donc, avec la dernière version du framework, maintenant, on arrive à récupérer notre pile d'appel. Donc, on a notre pile d'appel comme si on était en synchrone, mais on reste quand même en asynchrone. Donc, ça nous simplifie énormément le boulot de debug. Donc, là, c'est plus productivité dans le sens j'ai moins à écrire de code spaghetti. c'est que on nous a toujours appris, quand on écrivait des applications client-serveur, on se connectait à la base de données, on fait une requête, et on se posait pas trop la question de savoir si on était connecté à la base. C'était un peu quand on faisait notre connexion open, ben voilà, elle était ouverte ad vitam aeternam et on l'a gardée. Et sauf que maintenant, voilà, on a des applications dans le cloud et des applications mobiles, on a des tablettes ou des téléphones, et ben les applications elles se déplacent. On a du réseau sûrement en 3G et donc la connexion ben, elle se coupe. Parce qu'on change même d'IP. Et donc forcément, quand on ne prend pas en compte ce paramètre-là, la deuxième, si on a une requête qui fait une méthode qui prend plusieurs requêtes, ben, au milieu, si la connexion se coupe, ben, on perd cette connexion et on va avoir une belle exception. Donc avec le framework 4.5 et Entity Framework, dans la DO, ils ont rajouté la résilience de la connexion. C'est-à-dire que s'ils détectent que la connexion est coupée, il va essayer d'automatiquement de se reconnecter au serveur, sans avoir à nous demander. Donc ça évite de faire, est-ce que je suis connecté, alors je recommence là, je me reconnecte. Donc beaucoup moins de code spaghetti. Donc je vais vous montrer ça. Vous allez voir, ça a l'air tout bête, mais on va gagner énormément de temps. Hop. Vous m'entendez ?
Switch.
Hop. Alors j'ai pris une appli toute simple. Elle affiche une grille, je vais vous la montrer sans les points d'arrêt. Elle affiche une liste de personnes et avec le nombre d'éléments que j'ai dans ma base de données. Un truc tout basique. Mais j'ai deux connexions à ma base de données dans deux méthodes différentes. Je vais les mettre là. J'en ai une ici. Et donc je mets des points d'arrêt et puis on va voir ce qui se passe quand je coupe les connexions. Donc je lance. Donc je suis juste avant. Je m'arrête après la méthode. Déjà, je vais vous montrer le return value dans ma fenêtre auto ici. Je vois la valeur de retour de ma méthode. Donc quand je débug, ça me simplifie. J'ai pas besoin d'avoir plus d'informations que ça. Ici, je suis dans mon immediate window. Je vois la valeur. C'est une liste de 10 éléments de mon tableau. Donc pour l'instant, tout va bien. Je suis connecté au réseau. Alors j'ai une petite appli qui est dans les six internal suites, qui s'appelle TCP View, et je peux voir toutes les connexions de TCP qui sont sur mes process de ma machine. Et une en particulier, celle-ci, elle va se connecter en TCP à mon SQL Server via le port 4422. Donc je vais la couper. Voilà. Donc là, j'ai simulé une coupure réseau. Je récupère le réseau. Je continue si j'ai une autre requête à la base de données. Et si je reviens ici, je vois que la connexion est réapparue. Donc Entity Framework a détecté la coupure réseau. Il a relancé la connexion, donc je n'ai pas eu à me préoccuper de ça. Donc là, je suis en debug, c'est une appli 64 bits. Ah, je vois que j'ai une petite faute d'orthographe ici. Donc maintenant, on peut vraiment éditer le code et revenir. Et le code a été recompilé à la volée et j'ai pu continuer. Donc voilà, c'était tout bête ce petit S là, mais on ne pouvait pas le faire depuis qu'on a des machines sous Windows 7. Donc ça fait quand même pas mal de temps.
Ouais, pour info, il y avait des OS XP 64 bits, mais ils ont été très très peu déployés, même si les matériels étaient 64 bits. On ne pouvait pas en profiter. Donc la plupart des installations de XP sont en 32 bits, alors que les installations de Windows 7 sont majoritairement en 64 bits.
Je vais revenir sur Visual Studio 2012, je suis en framework 4.5. J'ai une appli, alors juste un fichier tout bête avec des nombres de 1 à 200 000. Et j'ai une appli qui va juste lire en asynchrone chaque ligne et les convertir en asynchrone en entier et les afficher sur la console. Donc un truc très basique. Tout ce que je veux, c'est simuler des appels asynchrones. Et je mets tout en bout d'appel, c'est-à-dire quand j'ai tout lu, j'ai plus rien à lire, donc je vais avoir au moment du read-line, je vais avoir nul. Donc ça veut dire que j'ai lu tout mon fichier. Je vais mettre ici et je vais voir ma pile d'appels. Et donc, je vais avoir toute ma pile de méthodes qui seront appelées. Et donc, je regarde ma stack et il me dit, déjà, je ne vois pas mon main et je vois juste mon readline et return string async, c'est-à-dire la dernière méthode de ma pile d'appel. Et si je regarde mon code, qu'est-ce que je vois? J'ai mon main qui appelle run, qui lance une tâche, qui appelle readline and return int, qui lui-même appelle return string. Donc, techniquement, je devrais voir ma pile d'appel. Et donc là, forcément, quand on débug, là c'est facile parce que ça tient dans un fichier, mais quand on a ça sur plusieurs fichiers, quand on a une bibliothèque, c'est pas facile du tout. Donc je me remets maintenant, c'est exactement le même code en framework 4.5. Je relance. Je relance pas le bon. Je mets dans ma call stack. Donc forcément, on a les appels asynchrones qui sont ici. Et on a bien ma pile d'appels qui est là. Donc on retrouve ce côté synchrone de notre pile d'appels, même si on a un jeu de tâches qui est pris en compte quand on fait de la synchrone. Donc ça nous simplifie la vie. Toujours dans l'idée, on développe visuellement en synchrone, mais derrière, c'est de la synchrone qui est réalisée. Donc maintenant, on l'a en debug.
Alors, tiens, je te donne...
Il n'y a pas eu que ça dans le framework 4.5.1. Il y a eu quelques améliorations aussi du côté des applications en Windows Store. Une première application qui simplifie le développement au niveau des flux. Il n'y avait pas de compatibilité entre certains types de flux. Donc ils l'ont rajouté dans cette version de framework. Donc un petit détail, on est sur un point 1, donc on ne peut pas avoir beaucoup de choses non plus dans le framework 4.5.1. Et autre chose, la possibilité de remonter des exceptions sous forme d'exceptions et pas sous forme de hash result comme on a d'habitude quand on fait du système. Ça nous simplifie un peu la vie quand on développe parce que les messages sont beaucoup plus clairs.
Ok. Bon, moi, je vais vous parler de performance. Donc, il y a eu quelques grosses améliorations, principalement sur la partie ASP.NET. Et dans ASP.NET, maintenant, il y a la capacité de suspendre un site de manière assez intelligente. Donc, imaginons qu'on a un site qui est actif. Il démarre, il est actif, voilà. Il arrive à un certain délai où il est idle. Eh ben, au lieu de le terminer, il est suspendu. Donc ça veut dire que on va libérer naturellement la CPU, une partie de la mémoire. Tout ça va être déshydraté de manière à ne plus être en instance dans la mémoire de l'ordinateur. Et c'est quelque chose qui a des conséquences assez notable sur l'espace mémoire une fois réhydraté et sur le temps de chargement une fois que le site est redémarré. Donc là, on a des informations provenant de Microsoft. On voit que c'est une option qui est non négligeable sur l'emprise mémoire et la rapidité de redémarrage du site. Alors, petite contrainte, il faut être en Windows Server 2012 R2. Il y a un couplage avec l'OS et donc avoir 2IS 8.5. Mais c'est quand même une fonctionnalité qui n'est pas très compliquée à mettre en place puisqu'en fait, il y a juste une option à changer. Au lieu de dire que le process se termine au bout d'un certain temps, on précise qu'il est simplement suspendu. Et à ce moment-là, on profite de la fonctionnalité. Donc c'est juste ça et ça vous apporte quand même une sacrée amélioration au niveau de l'emprise mémoire et la rapidité. Alors, l'année dernière, on a parlé du compilateur Just-in-Time. Donc, le compilateur .NET, vous le savez, il compile à la volée. Hein, il est un petit peu, on va dire, feignant. Il prend uniquement les choses qu'il a à faire et puis il les traduit en code natif de la plateforme où il s'exécute. Alors, cependant, en framework 4.5, il y a eu des améliorations pour permettre que ce travail de traduction s'effectue en parallèle. Il y avait quand même un grand oubli, c'était les applications ASP.NET. Elles ne pouvaient pas bénéficier de ce JIT parallèle. Bon, ben voilà, c'est fait. C'est pour ça que je vous disais que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière. Il y avait des parties du framework qui n'avaient pas été améliorées alors que d'autres l'avaient été. Bon, ben là, c'est le cas. Les sites web profitent de ce JIT parallèle. Là encore une fois, on constate que ça apporte une amélioration notable. Donc, les tests ont été menés sur le fameux site .NET Nuke, qui est un site qu'on peut télécharger et qu'on peut utiliser comme benchmark. Un élément qui est important aussi, et ça, c'est dans la logique de mise à jour, quand le framework est mis à jour, bien évidemment, Il y a tout un travail d'installation et même il y a un travail de compilation des assemblages natifs. Donc ça peut prendre un peu de temps. Une fois que ce travail est fait, les performances sont tout à fait acceptables, sont meilleures même que le framework précédent. Donc il n'y a pas de déception à avoir. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est l'équipe du framework qui est très sensible à ça. Compte tenu que le framework 4.5 est déployé sur beaucoup de machines, l'enjeu de déployer une nouvelle version est toujours quelque chose qui est préoccupant. Alors là, on va rentrer dans un sujet un peu plus technique. L'année dernière, on a parlé un peu plus longuement sur le Garbage Collector. Le Garbage Collector, vous le savez, c'est le système qui permet de libérer de la mémoire des objets qui ne sont plus référencés. Donc, il existe deux systèmes de tas dans .NET. Il y a le tas pour les petits objets, qui est générationnel, génération 0, génération 1, génération 2. Ça, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Et puis, il y a un tas spécial qui est réservé aux gros objets, les objets qui font plus de 85K. Les objets qui font plus de 85K, ils sont un peu longs à déplacer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de phénomène de compactage. Le compactage, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand une référence n'est plus valide, elle disparaît. Donc, entre deux références qui existent, ça crée un trou. Le problème, c'est si j'ai plein de trous, je vais avoir du mal à allouer un objet dont la taille dépasserait le plus grand des trous disponibles. Alors, dans le framework 4.5, on a eu quand même une amélioration, c'est-à-dire 30% de vitesse supplémentaire pour trouver le meilleur trou. c'est la ligne la dernière, 30% de vitesse d'allocation dans les EOH par rapport au framework 4. Donc, c'est donc cet algorithme pour trouver la place libre. Dans la version 4.5.1, on a une nouvelle option qu'on peut utiliser de deux manières. Alors, la première manière, donc, dans l'objet GC Setting, LOH Compaction Mode, on peut mettre une option pour dire lance un compactage du LOH. Alors, on peut tout de suite lancer un collect et à ce moment-là, il va lancer tout le garbage collector, même sur le petit A, et il va le faire aussi sur le LOH, et on va avoir le traitement. On peut aussi le faire de manière en disant quand le garbage collector va se déclencher, vu qu'on a seté cette valeur, à ce moment-là, il fera aussi le travail. Alors, c'était une demande. Tout pareil, la plupart des demandes qui ont été faites dans le 4.5, c'est des demandes qui ont été faites par différents médias, donc le User Voice, mais aussi Stack Overflow. Enfin, il y a pas mal de points d'entrée que Microsoft a observé. Par rapport à cette nouvelle caractéristique, moi, j'ai tendance à dire, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. Si l'application est bien designée, c'est pas quelque chose qui devrait être utilisé. C'est assez coûteux en temps, et puis ça dénote quand même un problème de design dans l'application. Mais ceci dit, je suis pas fou. Des fois, on a du code legacy, on n'a pas le temps de tout revoir. Et si on peut sauver son application pour que, malgré tout, elle ne plante pas en production, ça peut valoir le coup. Alors, donc, voilà l'option. Juste pour vous rappeler, donc là, j'ai trois objets A, B, C. Donc là, je suis dans le framework 4.5, j'ai un trou. Imaginons que je fasse une allocation, j'ai besoin de 4 cases pour faire mon allocation. Là, c'est pas possible, je vais avoir out of memory. Pourtant, il reste de la place libre. Et les 4 cases unitairement sont disponibles. Bah, ce que va faire le 4.5.1, c'est ça. C'est qu'il va le compacter. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir la place pour obtenir l'allocation souhaitée. Avant de lancer la démo, on va parler de fragmentation. On va regarder avec un outil qui s'appelle Perview le taux de fragmentation du LOH. Parce que c'est pour prouver justement que l'option fonctionne bien. Ce n'est pas tout de voir que l'application ne plante pas. Le but, c'est de prouver qu'effectivement, l'option a bien compacté la mémoire du LOH. Donc la formule, elle est simple, c'est 1 moins le plus grand POG libre divisé par la mémoire totale. Donc vous avez quelques exemples. Hein. Fragmentation zéro, c'est-à-dire qu'on a un seul bloc, tout est libre, 90%. On a 100 mégas de libre, mais seulement 10 mégas pour une nouvelle allocation. Donc il n'y a qu'un trou disponible de 10 mégas, mais il y a plein de petits trous. Donc c'est le débat de cette démonstration que je vais vous montrer. Alors,
n'oubliez pas, c'est un VPC++. Hein.
Donc, le point d'entrée est simple. On analyse si on passe une option compacte. Compacte, ça veut dire qu'on va mettre l'option de compression du LOH. Toute l'intelligence du programme se trouve dans cette méthode run. Il y a une première allocation où on va allouer un tableau d'octets de tableaux. Donc vous imaginez un tableau et chaque entrée de ce tableau, c'est d'autres tableaux, donc des tableaux de bytes. C'est important de se souvenir de ça parce que sinon on ne va pas comprendre comment ça fonctionne. Après, on va tourner 300 000 fois. Si l'option compacte est mise, on l'appellera à chaque fois. Et on va allouer un peu plus de mémoire. C'est là que on comprend un petit peu ce qui se passe. Donc on va rallouer de la mémoire, donc on ralloue un sous-tableau via l'objet random de .net. On lui dit le minimum c'est 85 000, donc la taille pour être éligible dans le LOH, ou 350 000 avec une petite option modulo pour ajouter de la mémoire de temps en temps. On l'initialise et après on réaffecte dans le tableau primaire ce nouveau tableau en utilisant encore l'objet random pour être sûr d'avoir une répartition un peu hasardeuse. Alors pourquoi faire ça ? Faire ça, c'est que quelque part, on va déréférencer des tableaux existants un peu partout et on va créer des trous. C'est juste ça. L'objet, c'est de créer des trous et de fragmenter la mémoire. Alors, je vérifie que je suis bien.
Forcément, on prend des tableaux taille aléatoire parce que si on remplace des tableaux par des tableaux de même taille, forcément, les trous, on arrive à les remplir. Voilà. Et la démo ne sert à rien.
Voilà, donc je lance ce programme. Donc là, il ne compacte pas. Hein. Voilà, et au bout d'un certain temps, il plante. Donc. Ça c'est clair. Alors, pour vous montrer que la mémoire est fragmentée, j'ai déjà exécuté ce programme à travers un outil qui s'appelle Perview. Alors, Perview, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un outil disponible de chez Microsoft, il faut télécharger, qui est dédié à l'analyse de performance. Et donc, il y a une partie HTML qui s'appelle GCStat qui permet de regarder pas mal d'informations sur le garbage collector. Et il y a une valeur qui va nous intéresser au plus haut point, c'est la fragmentation du LOH, d'où la petite définition de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on arrive à des 45%, 35%, enfin, on est dans un taux de fragmentation très, très élevé. Donc, bien évidemment, ça pose problème. Donc, si je relance mon application, et cette fois-ci, je reviens là.
Donc, en gros, 45%, c'est quasiment le bloc disponible, c'est la moitié de la taille de mémoire disponible.
Voilà. Là, si je le relance. Alors là, on ne va peut-être pas attendre la fin du programme parce que ça va se ralentir très sérieusement. C'est-à-dire que l'effort de compactage est tellement long qu'on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer le Perview sur une version où on a activé l'option compact. Voilà. voilà, j'ai la ligne. Et qu'est-ce qu'on voit ? Bah, le LOH est fragmenté de 0, 1 tout le temps. Donc il est très peu fragmenté, malgré mon programme, qui n'arrête pas d'allouer n'importe comment. Donc voilà, c'est une option qui est efficace, qui est quand même assez lourde. Hein, donc il faut bien réfléchir avant de la lancer. Bon, je vais l'éteindre parce que ça prend pas mal de temps. Je vous assure, il ne plante pas, il finit correctement. Mais, comme je le disais tout à l'heure, une option à utiliser avec parcimonie. Hein. C'est pas forcément l'option la plus performante, on va dire. Par contre, effectivement, il n'y aura pas plantage. Il ne faut pas
l'utiliser n'importe comment. Il faut quand même faire un petit diagnostic avant pour savoir quelle est l'origine du problème.
Ouais, lancer Pairview, c'est pas mal. Ça permet de voir si c'est vraiment ça le souci. Voilà, je vais laisser la main à Michel.
Troisième partie, innovation continue. On a à peu près, donc, comme disait Bruno, 100 millions de machines qui contiennent le framework 4.5. Donc on ne peut pas s'amuser à changer n'importe quelle API dans ce framework-là. Et donc il faut concilier la stabilité et les mises à jour et une nouvelle fonctionnalité. Parce qu'on s'est rendu compte depuis quelques années, les logiciels évoluent de plus en plus vite. On prend par exemple la stack web, qui est maintenant, elle n'a rien à voir avec celle qu'il y avait même il y a 2 ans. Donc tout évolue très vite et il faut en tenir compte, mais en gardant une certaine stabilité. Donc pour faire cela, les équipes de Microsoft ont décidé de passer par des flux NuGet pour développer le framework et surtout pour distribuer de nouveaux composants. Donc en fait, ça existe déjà depuis la version 4.5. On avait déjà certains composants, donc tout ce qui était MEF et TPL Dataflow. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez TPL Dataflow ? Ok, bon, il y a 2 personnes, mais on les connaît, donc ça compte pas. c'était déjà des composants qu'on pouvait télécharger par NuGet. Mais donc on a maintenant le framework in the box, donc celui qu'on installe sur la machine, et par-dessus, en fait, tous les nouveaux composants vont se déployer via des flux spécifiques. Et avec le framework 4.5.1, on a maintenant le HTTP client, donc tous ceux qui font du web maintenant le connaissent, les portable class libraries. Et les immutable connections que va vous présenter Bruno juste après. Donc voilà, on a cette base là. Elle est disponible dans Visual Studio, dans toutes les versions de Visual Studio, et c'est un flux NuGet spécifique dans la fenêtre de gestion de package NuGet. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça reste des composants du framework .NET, même qualité de service, même support, même gestion des patchs s'il y a des problèmes de sécurité. Mais c'est installable à la demande. C'est un peu le client profile du futur. Donc, pour avoir la source exacte, elle est ici. Elle est disponible dans les options Visual Studio, mais normalement, c'est déjà configuré chez vous, dans vos machines. Vous en servez peut-être même, mais vous ne le savez pas encore. Donc, on va vous présenter un package, les Immutable Collections. Qui connaît ? Toujours les mêmes qu'on connaît, donc ça compte pas.
Donc, je vais vous parler d'un package qui en fait s'exécute quand même en 4.5. Hein. Il faut savoir que les packages NuGet qui sont apparus, je crois que le package est arrivé en novembre, il n'y a pas de problème si vous les pouvez les utiliser en 2012. Et naturellement, en 2013, ça fonctionnera sur le framework 4.5.1. L'idée d'avoir des éléments immutables, c'est quelque chose qui est relativement important quand on a des considérations de multithreading. Immutable, ça veut dire que l'état ne bouge pas. C'est-à-dire que j'ai des garanties que les objets que je vais utiliser vont garder leur état et il n'y aura pas de problème d'incohérence si cet objet est plongé de manière simultanée dans 2 threads. Vous en utilisez déjà pas mal, hein. La classe string, c'est le cas, hein. On ne peut pas la bouger, elle engendre une nouvelle instance. Donc c'est un peu l'idée, quand on a un objet immutable, quand on le modifie, il engendre une nouvelle instance avec cette modification. Bon, je vais vous présenter un petit peu, à travers des démonstrations, qu'est-ce que ça signifie. Alors, là, j'ai un tout petit programme avec des listes. Je ne sais pas pourquoi j'étais inspiré par des fruits. Je crois que c'était le blog d'origine qui parlait de ça. Donc, pas très original. Donc, j'ai fait des listes de fruits pour l'hiver, des fruits d'été, des fruits d'hiver en général. J'en ai pas fait beaucoup. Et j'ai détaillé deux méthodes pour instancier. Donc, soit j'instancie avec les fruits d'hiver, soit je passe par une méthode que j'appelle Builder, qui me retourne quelque chose. Alors, on va les voir. Donc, la méthode qui est grisée, elle utilise une immutable liste. Donc, en fait, les collections immutables reprennent les listes standards. Elles sont préfixées par immutable. C'est facile. Hein. Et elles ont les mêmes verbes qu'avant. La seule différence, c'est que elles ne se comportent pas tout à fait de la même façon quand vous les modifiez, c'est-à-dire quand vous ajoutez un élément ou quand vous retirez un élément. Donc là, on voit qu'on passe par un objet interne qui s'appelle le builder. Alors, pour ceux qui utilisent déjà la classe string, vous savez que quand vous avez à ajouter dans une string de manière conséquente, vous êtes passé par un string builder. Là, c'est à peu près la même idée. Sinon, on peut passer par une factory dans laquelle on lui passe un tableau. Donc, elle va s'initialiser, elle va nous retourner. Donc, une fabrique, une instance d'immutable string qui contient mes fruits. Voilà, donc je vais retrouver la même chose pour ajouter des fruits et pour supprimer des fruits. Alors, supprimer, là, c'est plus intéressant parce que on va les supprimer un à un. Et là, vous voyez, quand je fais le remove, en fait, la collection ne va pas retirer l'élément de la collection courante, elle va me retourner une collection qui contient un élément en moins. Et ça à chaque tour. Donc, je réaffecte l'instance de manière à garder quelque chose qui est cohérent. Sinon, je ne vais rien ajouter, rien retirer. Donc, voilà, ce petit programme, je peux le lancer. Il a pas trop de... Là, on n'a rien vu. Il n'a pas trop d'intérêt. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Vous allez me dire, OK, j'ai compris. Donc, on va passer sur un usage un peu plus réaliste. Donc, imaginons que voilà, je veux représenter Rungis. Il fournit des fruits. Moi, je suis imprimeur. Je vais recevoir les fruits. Donc, j'ai un fournisseur et un consommateur de fruits. Tout ça, je les ai mis dans des tâches disponibles depuis le framework 4. Je les fais tourner. Et puis, j'ai mis en place un objet d'abandon de manière à ce que quand je fais la center, j'abandonne les deux tâches courantes de manière à ce que le programme s'arrête proprement. Donc le fournisseur, lui, il pourrait reprendre ses fruits de la base de données. Donc là, j'ai utilisé des listes statiques. Donc il y a les petits fruits, les fruits rouges, les fruits à pépins, etc. Et puis, il y a un objet que j'ai fabriqué qui aurait pu être une socket, ce qu'on veut, que j'ai appelé IPC. On envoie l'information et on fait un tout immutable dedans et on l'envoie. Le consommateur, lui, à chaque fois qu'il reçoit en fait, une liste, ça correspond à un casier, il le dédie à une tâche pour le traiter. Le traitement, c'est simplement l'afficher. Donc, je me suis trompé. Voilà. Là, si je le lance, ça défile, ça boucle, ça marche plutôt bien. J'ai pas de soucis avec. Vous remarquerez que j'ai pas fait un usage excessif où j'ai additionné moi-même des fruits dans les listes immutables. Je m'en suis vraiment préservé. J'ai vraiment utilisé la collection immutable pour plonger cette liste dans un univers multithreadé. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Où là, on est plus sur un benchmark. Donc l'objectif, c'est... je vais le lancer, comme ça sera plus simple. Donc là, on crée une liste standard. Il y a les temps. Après, on crée une liste immutable. Alors là, on va prendre très très cher. Le nombre d'items, c'est ce qui est affiché en haut. Donc on voit qu'on est dans des temps qui deviennent indécents, que le programmeur novice comprendrait rapidement qu'il y a un souci. Donc on est presque à 20 secondes. Avec le builder, on est à la moitié. c'est quand même quelque chose de coûteux. Après, on va avoir des lectures. Voilà. Bon. Globalement, déjà, il ne faut pas utiliser les listes pour ajouter unitairement dedans. Hein. Il faut mieux faire un tout quelque chose et il faut mieux les utiliser de manière intelligente quand on est dans un mode thread et repasser avec des listes conventionnelles. C'est plutôt un moyen de vous prémunir des problèmes d'intégrité quand vos données traverseraient des threads. Une fois que vous êtes dans le thread, vous pouvez repasser dans votre liste, il n'y a pas de problème, vous êtes dans un seul thread. Mais c'est dans le passage multithread que là, ça a son importance. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, je vais repasser au slide. Essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche. En fait, bon, je prends le cas d'une liste. À l'intérieur, au niveau de l'implémentation, ce n'est pas exposé. Il y a une structure de nœuds avec un précédent et un suivant. Donc, si par exemple, je fais create avec un élément, j'obtiens ça. Ça n'a rien à voir donc avec une liste standard où, en général, on alloue une liste mémoire linéaire. Et puis, non, là, ce n'est pas ça du tout. J'ajoute deux. Donc, à ce moment-là, j'obtiens une autre liste et j'obtiens deux nouveaux éléments. C'est-à-dire que la liste 1 peut vivre sa vie, la liste 2 s'en fout complètement, il n'y a pas de rapport entre les deux. Je rajoute cette fois-ci en indiquant l'endroit où je veux rajouter. C'est-à-dire que je veux démarrer à l'indice 0, dans le premier. Donc, en fait, c'est un arbre binaire. La partie du haut, là, se lit comme ça. Et donc, on a bien 1, 2, 3. Mais la grande différence, c'est que la partie 2 est cette fois-ci commune avec la liste précédente. Pourquoi ? Parce que la liste 2 n'a pas de rapport, n'a pas de lien backward avec le reste. Donc, on pouvait la garder. Donc, si la liste 2 contenait une arborescence profonde, on aurait fait une économie de mémoire conséquente. Donc, vous voyez, la manière dont sont gérées les listes immutables, leur comportement est totalement différent des listes standards, de par le fait qu'elles sont immutables. Il faut comprendre un petit peu que derrière, ce n'est pas exactement la même chose. Alors là, j'ai pris le cas de la liste. Bien évidemment, si j'avais pris un dictionnaire, ça aurait été un peu plus compliqué, mais on aurait retrouvé à peu près la même idée. Alors, pour se rassurer au niveau des performances, je ne sais pas si vous êtes tous habitués avec la notation grand O. Enfin, c'est ce qu'on utilise en algorithmie en général. Donc, vous avez les versions mutables dans le pire des cas et les immutables. On voit que la pile n'est pas trop conséquente. On voit que la liste, elle est en haut de log de n, ce qui est quand même conséquent, mais ce qui est moins grave que haut de n. Voilà. Donc, il faut savoir à peu près qu'est-ce que ça signifie. Donc, un élément aussi important, c'est que les listes immutables, quand on retire un élément, il est vraiment retiré de la mémoire. C'est-à-dire que comme derrière, c'est un système d'arbre, quand le nœud disparaît, il est déréférencé au prochain garbage collector, il va disparaître. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un remove d'une liste standard. Donc, c'est aussi un élément interne à comprendre. Bon, sur l'ajout, vous l'avez compris, avec le petit schéma tout à l'heure, en fonction de la manière dont les choses se passent, la gestion mémoire sera différente. Alors, conseil d'utilisation. C'est vrai qu'après tout ça, on peut être un peu dubitatif et se dire, mais est-ce que je vais bien les utiliser ? Moi, je suis un peu expert parallèle. Si vous faites un automate de trading ou quelque chose qui est vraiment agressif, utilisez les concurrentes collections. Ne vous posez pas la question. C'est vraiment les concurrents de collection qui sont faits pour vous. Si vous êtes dans un programme dans lequel vous allez rajouter des tâches, parce que vous avez remarqué qu'il y a moyen d'améliorer un petit peu les choses, jeter un œil sur les immutables collections, juste sur la partie où vous allez engendrer une communication d'une collection vers un univers multithreadé. Ce sera plus économique finalement que d'utiliser les concurrentes collections. Parce que les concurrentes collections sont vraiment faites pour un environnement particulièrement multithreadé. Voilà, donc la dernière phrase, hein, c'est que voilà, elles sont relativement rapides à lire, mais très très coûteuses à mettre à jour. Le framework.net, pour le résumer, c'est un peu tout ce qu'on vous a dit. Donc en 4.5.1, on a à peu près tout ça. Donc c'est pas rien. C'est qu'un an. Hein. Il y a un an, le framework 4.5 sortait. Un an après, on a le 4.5.1. Il ne faut pas s'attendre non plus à une révolution en termes de fonctionnalité, mais c'est quand même non négligeable. Les points d'entrée, quand vous aurez les slides, les URL sont derrière les parties soulignées. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est le blog du framework, c'est les forums, c'est le user voice. Tout ça constitue les éléments qui vont influencer l'équipe pour faire des nouvelles caractéristiques. Moi, par exemple, j'avais demandé qu'on puisse tirer parti de la vectorisation qui existe dans les processeurs Intel. C'est une chose qui est dans la pile, mais qui n'est toujours pas votée, donc on ne l'a pas.
Voilà. On compte sur vous.
Bon, peut-être tout le monde n'est pas intéressé par la vectorisation. Vous pouvez naturellement noter la session. Ça, c'est un peu le thème des Tech Days, hein, c'est que toute session doit être commentée, si ça vous a plu ou pas plu. Après, Michel, je crois qu'il y a un jeu. Hein.
Oui, il y a un petit jeu concours sur notre stand. N'hésitez pas à aller nous voir. On est au stand 15, juste à côté des stands Visual Studio. Donc, n'hésitez pas, on est là-bas. On sera ravis de venir discuter avec vous.